Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. On s'intéresse au marché de la réparation. Comment réparer vos appareils ménagers au moindre coût? Éviter de les jeter et par conséquent protéger la planète. Nous avons la solution, les Répare Café. Benjamin Mazdoua est le président du Répare Café de Colomiers, près de Toulouse. Il existe un millier de Répare Café dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'un café qui répare? Vous allez l'entendre, c'est beaucoup plus qu'un espace de réparation. C'est un lieu de vie où on redonne une seconde vie à nos appareils ménagers. Bonjour Benjamin Mazdoua.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur Radio Présence pour Le Goût d'entreprendre. Merci. Alors, à quoi sert un répare café?
Alors, un répare café, ça a plusieurs dimensions. Initialement, on va dire qu'on est tout... Enfin, l'approche générale, c'est le développement durable, c'est-à-dire la réduction des déchets, se dire qu'on génère tous suffisamment de déchets et qu'il faut qu'on arrête de consommer n'importe comment et qu'on se dise que quelque chose qui est cassé doit être réparable. Et d'essayer de donner la chance à la réparation avant de se précipiter sur Amazon ou tout autre lieu d'achat pour commander à nouveau avant même d'avoir regardé si finalement c'était réparable. Ouais. Voilà, tout à fait.
Alors, ça veut dire que vous êtes, quand on vous parle d'obsolescence programmée, ça doit vous faire bondir.
Alors, oui et non, il y a de gros débats sur l'obsolescence programmée. Est-ce que c'est réellement quelque chose de volontaire ou est-ce que c'est quelque chose qui est induit par... des attitudes économiques, tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de cas où on arrive à voir que c'est un vrai calcul. Que c'est souvent la conséquence de mauvais choix.
Oui, il y a des grandes marques quand même, on a pu le prouver.
Voilà, il y a eu quelques cas, mais on va dire que très souvent, c'est la résultante en fait de tout un mauvais enchaînement de choix qui sont faits et qu'on veut réduire les coûts. Donc on prend des objets qui sont des produits ou des sous-ensembles qui sont moins efficaces, moins bons, qui tiennent moins la durée. Et dans la conception, on essaie d'économiser partout et donc forcément, à un moment donné, on a des choses qui durent moins longtemps.
C'est ça, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc c'est un ensemble de facteurs, en fait.
Voilà, c'est ça. Oui, je pense. Il y a eu des cas où on a vu la tricherie, où ils ont cherché à vraiment mettre des compteurs, les trucs typiques sur les imprimantes, tout ce genre de choses-là, où ils ont été pris un peu la main dans le sac, parce que c'est évident. Mais il y a beaucoup de cas où on abuse du terme obsolescence programmée, et c'est plus une mauvaise conception.
Alors, comment fonctionne un répare café?
Alors, le Répare Café, nous, on a essayé de le définir selon quatre grandes règles qu'on énonce à chaque personne qui passe la porte du Répare Café. La première, c'est que c'est du bénévolat. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui sont présentes pour aider à réparer sont là bénévolement. Il n'y a aucun coût qui est associé pour la personne qui vient faire réparer. On lui demande rien en échange. Voilà, ça c'est la première règle. La deuxième règle qu'on a, c'est vous qui réparez, nous on vous aide. C'est-à-dire que le principe, c'est vous passez du temps à réparer votre objet et nous on va vous amener les compétences, les outils, les conseils qu'il va falloir pour aller au bout.
Les connaissances techniques, oui, aussi.
Ah voilà, connaissances techniques, comment j'aborde un diagnostic, qu'est-ce que c'est? Vous avez des gens qui arrivent en disant « j'y connais rien, je sais pas faire ». Et justement, nous, on est là pour vous expliquer comment vous allez faire.
Ouais.
Et c'est, je pense, la partie importante, puisque derrière, on parlait tout à l'heure du développement durable. Il y a ensuite, c'est un peu la face cachée de l'iceberg, le lien social qu'on va créer avec les personnes.
C'est ça, oui, qui est capital.
Et l'aspect économique de ne pas avoir à racheter quelque chose qu'on aurait pu réparer ou à moindre coût, avec des composants qui coûtent 1 euro sur un catalogue d'électroniciens. Et racheter l'appareil, ça doit coûter une centaine d'euros.
C'est ça, ce genre de cas,
c'est assez fréquent. Et la troisième règle chez nous, c'est qu'il n'y a pas de garantie de réparation. C'est-à-dire qu'on n'est pas un magasin, on n'est pas un professionnel. Et donc, partie de ce principe-là, on ne peut pas leur garantir que ça va fonctionner pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, etc. Jusqu'à présent, on a eu très peu de cas où la personne est revenue en disant « Ah ben, ça n'a pas tenu la réparation ». Donc, ça a plutôt bien fonctionné.
Vous êtes des pros, alors?
Je pense qu'on a des personnes qui sont plutôt bonnes, qui sont plutôt bonnes dans l'approche de la réparation. On a des passionnés. Et des gens qui sont très efficaces. Et puis, d'un autre côté, la réparation en elle-même, une fois qu'on s'est diagnostiqué, dans la majorité des cas, est assez simple.
Vous trouvez la solution.
Oui, oui, on arrive à trouver la solution ensemble, hein, souvent même avec la personne. Hein, l'idée, c'est justement de la mettre en position, de suggérer des possibilités une fois qu'elle comprend comment ça fonctionne. Et on a même des personnes qui sont assez qualifiées, finalement, en face de nous et avec qui on peut avoir une vraie recherche. Mmh,
un partage, en fait.
Ouais, tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez tout réparer ? De quel matériel disposez-vous ?
Alors, tout réparer, non, on se fixe des limites, en fait, parce que parallèlement à tout ça, il y a un côté, les professionnels de la réparation qui existent, mmh. Qui sont, eux, équipés pour faire certaines choses. Je vais prendre un exemple, une télévision. Vous arrivez avec une télévision. Aujourd'hui, nous, on va être capable de dépanner tout ce qui va être alimentation. Ça s'allume pas, ou elle reste en veille longtemps, ce genre de panne-là. Par contre, tout ce qui va toucher à la dalle, à l'écran, là, il faut être équipé.
C'est ça, voilà.
Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les redirige, les gens, vers le réseau des réparateurs d'Occitanie, qui est en fait un réseau qui est conventionné par la Chambre des métiers. Donc c'est des réparateurs mmh. professionnels identifiés qui sont dans la démarche de réparer plutôt que de jeter.
D'accord.
Donc ils ne vont pas, vous dire il faut le jeter et puis il faut en acheter un autre. Ils ont vraiment cette démarche-là. Mais là, on est vraiment dans le cadre du professionnel. Donc nous, on atteint un public qui, de toute façon, généralement, ne va pas chez le réparateur et se dit « Oh, mais je vais essayer de le réparer moi-même. » Et souvent, quand on arrive à identifier le problème, on les incite à aller voir un professionnel aussi, quand on n'est pas capable, pour éviter de... Parce qu'une télévision, à partir du moment où vous démontez l'écran, ensuite, la répartition de la lumière dans l'image est
oui, là, il faut avoir les outils
Et on risque d'aggraver le problème. Donc ça, voilà, aucun sens d'aller là-dessus.
Vous êtes en concurrence avec les réparateurs vraiment ?
Non, pas vraiment, parce que dans notre état d'esprit, je pense qu'on peut se situer avant, c'est-à-dire qu'on aide à diagnostiquer les personnes et c'est le propriétaire de l'objet qui lui reste maître de la décision d'aller ou pas chez un réparateur.
Ouais.
Et on est assez nombreux, je pense, à toujours trouver ça un peu trop cher ou se dire bah, je vais même avoir à devoir payer le devis.
C'est ça, ouais. Tout à fait.
Et généralement, cette phase du devis, voilà, on le fait pas. Et cette phase de l'analyse ou du devis ou de ce genre de choses-là, ça peut se faire au niveau du Repair Café. Et ensuite, quand nous, on identifie, on lui dit là, il faut vraiment aller chez un pro, nous, on ne saura pas faire. Ou il faut changer un sous-ensemble particulier ou ce genre de choses-là. Mais dans une grosse majorité des cas, le public auquel on accède, a rarement la démarche d'aller chez un réparateur. C'est des familles des quartiers de Colomiers qui ont des objets qui sont en panne. Je prends l'exemple d'un four, d'un mixeur ou ce genre de choses-là. Ils ne vont pas chez un réparateur. Ils ont, pour certains d'entre eux, pas les moyens de le faire ou pas mmh. l'envie de le faire. Et le fait de proposer justement un atelier dans lequel ils vont être acteurs, dans lequel ils vont se valoriser aussi au travers d'être capables de le faire, parce qu'on... À l'issue de la séance, généralement, quand on a fini de réparer ensemble, on fait une petite photo avec et on a une galerie des sourires des gens qui ont réussi, qui ont passé un cap entre guillemets en disant c'est moi qui l'ai fait.
C'est moi qui l'ai fait.
On sent cette fierté là chez eux quoi.
Vous êtes tous bénévoles au sein de l'association.
Oui.
Vous recherchez un coup de main, des coups de main, des...
Alors, ce qui est assez génial, c'est que dans mon passé associatif, le recrutement de bénévoles a toujours été quelque chose où il fallait quand même cravacher. Et là, j'ai aucun problème. C'est-à-dire qu'à chaque séance, depuis un an, on a un à deux bénévoles qui viennent s'ajouter.
Ah oui.
Automatiquement. Soit quelqu'un qui est venu, qui a fait réparer quelque chose avec nous et puis qui se dit « mais c'est génial et j'ai envie de rester ». Donc ça, je pense que c'est aussi grâce à tous les bénévoles qui sont présents et qui transmettent un plaisir d'être là. Y a une ambiance particulière quand on est en Repair Café, d'entraide, de bienveillance, de solidarité. Et les gens se sentent bien avec nous. Et du coup, ça donne envie de participer un peu à cette aventure-là. Donc certains qui se sentent capables d'apporter des connaissances, se rendre compte qu'ils ont des connaissances et qu'ils ont la capacité de le faire, saute le pas assez facilement en disant « moi j'ai envie de venir ».
Donc c'est facile de recruter des bénévoles.
Ouais. J'ai Aucun problème pour ça, ouais. Et je suis assez content.
Et vous, vous êtes directeur dans un centre informatique, c'est ça?
Alors oui. Dans l'informatique. Alors moi, je travaille dans une branche de logistique et je suis directeur des projets informatiques dans une boîte qui fait de l'entreposage mondial et je m'occupe du périmètre Europe. Donc, on va dire, c'est en lien avec l'informatique.
C'est en lien, oui. Ouais.
Ça me donne des compétences sur le milieu informatique pour aider dans certains cas, mais on est assez loin au niveau des valeurs, de durabilité, d'altruisme, etc. Donc du coup, ça me permet aussi d'aller
voilà,
d'aller
ça, vivre ça ailleurs. Voilà, d'où ma question. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, aujourd'hui?
Le Repair Café, c'est plusieurs choses. C'est le résultat d'une histoire associative personnelle, on va dire. Et du coup, moi, ça m'apporte... on va dire la satisfaction d'avoir créé quelque chose d'utile.
Ouais.
Quelque chose où on voit qu'il y a une vraie utilité, qu'il y a du sens pour les gens. Et ça permet aussi de brasser des gens qui sont bénévoles et qui vont être en relation avec des personnes que jamais peut-être ils n'auraient rencontrées, si ce n'est au travers de ce genre d'activité-là. Donc le bénévolat en règle générale, mais dans le cadre du Repair Café, voilà, ça va permettre de vraiment mélanger un peu tout ça. Et donc moi, ça m'apporte, personnellement, le plaisir de me dire on rend ça possible.
Ouais, c'est ça, voilà. Et vous parlez beaucoup de mixité, de lien social, d'échange, de partage. On sent que c'est quand même très, très fort, très marqué au sein des Repair Café.
Alors ça, c'est... Oui, on va dire que le Repair Café, c'est un lieu sur lequel c'est écrit sur l'affiche, c'est écrit sur la bannière, ouvert à tous. Et ça doit se respecter en tant que tel. L'ouverture à tous, c'est l'ouverture à tous. C'est-à-dire qu'on ne vous juge pas sur l'objet que vous amenez, la couleur de peau, la manière dont vous êtes habillé, l'étage de l'immeuble duquel vous descendez, le type de voiture avec lequel vous arrivez. L'important, c'est qu'on est tous là pour la même chose, c'est réparer ensemble et on enlève tout le reste, quoi.
On s'arrête un petit instant. Pendant ce temps-là, vous allez regarder les micros si tout fonctionne.
D'accord.
À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Merci d'être avec nous pour le goût d'entreprendre, partie numéro 2. Bonjour Jean-Marc Fontaine.
Bonjour Doris.
Un de nos référents éthiques pour l'émission Le goût d'entreprendre. Et avec nous Benjamin Mazdoua, président du Repair Café de Colomiers. Alors aujourd'hui, on bidouille, on répare tout.
Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Donc on a compris au travers de ce que vous avez dit quel était l'objectif de ce Repair Café. Lorsque vous avez pris l'initiative de lancer ce Repair Café, est-ce que cela répondait à un besoin exprimé déjà par les habitants du quartier ou plutôt à une volonté de votre part, en tant que fondateur, d'essayer de changer des modes de consommation ?
Il y a plusieurs choses. Ce besoin-là avait été identifié. Alors l'histoire est assez drôle puisque la ville fait un appel à projet citoyen. La ville de Colomiers régulièrement fait des appels à projet citoyen sur la partie du développement durable. Et la thématique c'était le vivre ensemble.
Uh-huh.
Donc on est un peu loin de l'idée de la réparation au départ,
ouais.
Si ce n'est par le biais du développement durable. Et lorsque je dépose mon dossier, la mairie, par d'autres aspects, et plutôt par une branche économique, avait lancé l'idée au sein d'une maison citoyenne, d'une seule maison citoyenne, ou de deux, par le biais des maisons citoyennes, donc de faire des ateliers de réparation et d'aide à la réparation. Et on s'est retrouvés à se croiser exactement avec le même projet, c'est-à-dire proposer des ateliers de réparation dans les maisons citoyennes, donc au plus près des gens, etc. Donc du coup, moi j'avais identifié qu'il n'y en avait pas sur ma ville, dans l'information qui m'était, on va dire, mise à disposition, que j'avais envie de créer un projet sur ma ville. C'est-à-dire que l'initiation pour moi, c'était j'ai envie d'être utile à ma communauté, à là où je vis, mes voisins, voilà. Mais dans ce périmètre-là, le Repair Café Colomiers, il se contente d'agir sur Colomiers. On fait rien à Toulouse, on fait rien à Pibrac, on fait rien. On n'a pas de volonté d'expansion, de devenir la grosse association,
d'accord, etc. C'est du local.
C'est du local. Par contre, on aide les autres aussi à grandir. Donc, effectivement, il y avait un constat de c'est à faire. personne ne l'a lancé encore. Donc, OK, j'y vais. Là, j'avais envie de me lancer, de toute façon, avec mon épouse, dans un projet associatif. On avait envie de se lancer là-dedans, de créer quelque chose. Mm-hmm. Parce qu'on a été souvent bénévoles pendant très longtemps dans d'autres associations. Et il y avait cette idée-là. Et ensuite, on s'est croisé sur un vecteur qui est porteur dans l'agenda 21 des villes aujourd'hui.
Absolument, qui a du sens, ouais. Mmh, ouais. Oui. Et si on a envie d'ouvrir un Repair Café, il y a encore de la place, c'est possible ?
Chaque ville peut avoir son Repair Café. Le principe, c'est de se dire qu'il ne faut, faut pas faire des centaines de kilomètres pour pouvoir réparer son objet et d'avoir ça. Et c'est un axe citoyen de se dire on se réunit ensemble, on a des compétences diverses, quelqu'un a des outils. Moi, j'ai choisi de faire une structure associative, mais il y a plein d'autres façons de faire un Repair Café. Repair Café, c'est une fondation mondiale qui existe depuis 2007,
qui a été créée aux
Pays-Bas, exactement, aux Pays-Bas. Ils sont partis, pareil, des voisins entre eux qui se sont dit, on se retrouve au théâtre, on amène des gâteaux, du thé, ce genre de choses-là, et on passe la journée à réparer nos objets, à s'aider, à s'entraider avec les personnes qui avaient des compétences. Et tout est parti de là. Et le truc simple, c'est, ensemble, on va plus loin. Même si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Jean-Marc, une autre question.
Alors vous avez mentionné tout à l'heure que les personnes participent aussi à la réparation. Comment les personnes réagissent à ça ? Qu'est-ce que vous pensez que ça leur apporte ? Comment ça peut contribuer à un positionnement différent en tant que consommateur ?
Je pense que, alors, les personnes, comment elles réagissent à ça ? Elles, pour la majorité d'entre elles sont plutôt contentes qu'on propose un accompagnement et qu'on leur propose de faire,
de se lancer. Elles ne viennent pas en tant que consommateurs de la réparation.
J'en ai eu, sur les 15 Repair Café qu'on a fait, j'ai eu une seule personne qui est venue comme ça en pensant que c'était un magasin pouvait laisser son truc. Et c'est pour ça que dès l'entrée de jeu, j'explique les fameuses règles. Je lui dis non, mais vous restez avec nous et vous passez le temps qu'il faut sur votre objet. Et elle ne s'attendait pas à ça, elle n'avait pas prévu l'après-midi, donc elle est repartie. Et j'ai eu un seul cas sur 300 personnes qui sont venues nous voir. Donc,
Et vous disiez tout à l'heure que finalement, quelques craintes au départ, mais après les gens sont contents d'avoir contribué.
Y a même pas la notion de crainte. On va avoir des gens qui vous disent, moi j'y connais strictement rien.
Aidez-moi.
Du coup, ce qu'on leur dit, c'est, vous allez participer à la réparation autant que possible pour vous. On a des personnes âgées qui arrivent, qui ont une mauvaise vue. Donc s'il faut souder sur une carte ou un truc comme ça, on va les aider aussi à faire ça. Mais j'ai un souvenir, moi, d'une mamie qui est venue avec une essoreuse à linge, calor, un truc que j'avais jamais vu. Mais elle avait ça et elle nous dit, voilà, c'est mon mari qui le réparait. Maintenant, il n'est plus là. Et donc, du coup, mais je veux quand même continuer à le réparer. J'ai des photos d'elle avec le tournevis, elle a soudé, elle a tout fait. Donc, c'est possible. Enfin, ouais. C'est vraiment possible. Ouais, et le but du jeu, c'est qu'on vous mette en situation d'être capable de le faire et de vous rendre compte que vous êtes capable de le faire, finalement. Tout le monde est capable de le réparer.
Alors, qui sont les gens qui viennent ? Parce que vous mentionnez des personnes plutôt âgées, qui ont encore un peu le sens de la valeur des objets. Est-ce que vous travaillez aussi avec les jeunes ? Est-ce que vous faites de la sensibilisation sur la récupération auprès des jeunes ?
On a le public qui vient au Repair Café est hyper varié. On a l'éco-citoyen type, c'est une éco-citoyenne. Donc c'est une dame entre 40 et 59 ans, par rapport aux petites statistiques qu'on arrive à faire sur notre bon d'accompagnement, et qui vient régulièrement au Repair Café. Voilà, ça, c'est ce qui sort du profil qu'on a.
Elle a jeunes... toujours des appareils en panne, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est l'éco-citoyen type, c'est une dame. On est assez fiers de ça, de se dire qu'effectivement, on a un public féminin qui est, sur certaines séances, de plus de 80%, assez souvent, et qui viennent parce qu'on peut apprendre. Et ça, c'est important pour eux.
Et vous pensez peut-être que c'est parce qu'il y a une sensibilité féminine qui fait qu'on est plus sensible à ne pas jeter ?
Pas forcément.
Merci Jean-Marc.
Pas forcément sur la sensibilité elle-même, mais plus sur le fait de... S'il y a un challenge derrière, il faut se lancer. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément déjà fait. Et y a un lieu où on est... en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont pas peur d'apprendre, de dire « je ne sais pas », ce qui est peut-être un peu plus dur dans certaines virilités, de dire « je ne sais pas faire » ou « on va m'aider ». Mais on a aussi des hommes, vous inquiétez pas. en ce qui concerne les jeunes, moi, c'est vraiment l'axe sur lequel je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. L'éducation à la consommation, à une consommation différente, à une consommation responsable, c'est essentiel. Le positionnement du Repair Café par rapport à ça, comme je vous dis, donc, comme c'est ouvert à tous, les personnes viennent. Et quand les mamans ou les papas viennent avec un garçon ou une fille qui a un jouet cassé ou un instrument cassé ou quelque chose, on leur explique que c'est lui qui va réparer. Alors, on a eu des parents qui sont venus parce qu'ils sont dans la démarche. Je veux montrer à mes enfants que c'est possible et c'est eux qui vont le faire, etc. On a des jeunes, c'est pas la majorité. Ils viennent souvent sous l'égide de leurs parents, entre guillemets. Mais moi, j'ai même mon fils aussi qui est venu réparer son écran. Mais il n'est pas venu, papa, tu peux me faire mon truc
dans le
Repair Café. Il est venu le faire et... C'était un effort énorme pour lui parce qu'il est fan de foot. C'était pendant un match de la Coupe du Monde. Et à un moment donné, quand il était dans sa réparation, c'était l'heure du match. Il n'a pas lâché. Il est resté dessus parce que pour lui, c'était important d'y arriver. Donc, il y a vraiment ça. Et on a un axe de développement au niveau du Repair Café sur le conseil d'administration qui est de réfléchir à comment on peut apporter quelque chose aux jeunes aujourd'hui en allant dans les lycées, dans les collèges, ce genre de choses.
Vous réparez les téléphones portables ?
Alors, oui. Alors, c'est toujours pareil. Je réponds toujours à la question en disant non, les gens réparent les téléphones portables avec notre aide.
Oui.
On ne répare pas directement. Pourvu que vous ayez acheté, par exemple, vous avez cassé votre écran, vous voulez changer votre écran, on peut vous y aider. Et on a un peu de matériel, enfin, on a le matériel qu'il faut pour les démonter, on a des gens qui connaissent plutôt bien la chose, mais il faut avoir prévu d'acheter les pièces. Nous, par
c'est
contre,
ça,
on ne vend pas les pièces, on a rien. Hein, donc, souvent, on identifie ce qu'il faut faire, on vous donne les conseils pour commander, on cherche ensemble sur Internet, puis vous revenez à la fois d'après.
C'est
on
déjà
apprend
beaucoup.
Aussi à prendre le temps.
C'est déjà beaucoup.
Oui, c'est beaucoup
et rendre autonome.
Et rendre autonome, ouais, c'est absolument. Ça. C'est apprendre à chercher sur Internet, c'est une grosse partie du travail qu'on fait avec beaucoup de gens, d'aller chercher la bonne pièce, de savoir comment la trouver.
Absolument.
C'est essentiel.
Ouais, absolument. Jean-Marc, votre question.
Alors, ce que vous faites en tant qu'association, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ça devienne un lieu d'insertion professionnelle au travers de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que c'est un axe de développement auquel vous avez déjà pensé?
Alors oui, ce que je me dis toujours là-dessus, c'est le projet que j'ai monté, le projet associatif, il ne m'appartient pas. C'est pas moi, j'ai juste initié la chose et le Repair Café peut se transformer effectivement dans ce format-là, qui est un format qui peut créer de l'emploi. La question, on va être sur la brèche de la limite avec les réparateurs professionnels. Donc il faut trouver aussi le bon moyen, parce que si on a si on commence à avoir une activité qui est quotidienne, donc tout le temps ouvert, tout le temps accessible, etc., là, il est possible que ça crée
que vous soyez en concurrence,
de la concurrence et sur une approche... Enfin, ça se travaille. En tous les cas, ça se travaille, c'est certain. Donc aujourd'hui, effectivement, le format associatif nous protège aussi un peu de ça. Mais on est en contact avec... c'est la mijoteuse sur Colomiers, qui est l'incubateur d'économie sociale.
Que nous avons reçu dans l'émission.
Économie sociale et solidaire, des personnes qui nous suivent et qui nous accompagnent énormément et qui nous aident beaucoup, tout comme Corinne Mesté. Qui est sur les maisons citoyennes.
Il y a par exemple l'expérimentation zéro chômeur de longue durée qui pourrait aussi on pourrait s'inscrire dans ce cadre-là, par exemple.
Alors, c'est des choses qui sont possibles. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, par exemple, accueilli une personne qui avait le statut de réfugié et qui avait envie de rendre aussi un petit peu de ses compétences ou de ce qu'il savait faire et qui prenait donc des cours de français dans la maison citoyenne où on était passé et qui passait de l'autre côté du comptoir, entre guillemets, pour aider à réparer et qui fait partie de nos bénévoles. Il est là quand il peut être là. Ça lui permet aussi de ne pas être uniquement récepteur de l'aide, mais aussi de pouvoir en donner, de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un. Et je pense que c'est essentiel dans les situations dans lesquelles il est.
Est-ce que vous donnez le goût d'entreprendre aux gens qui viennent vous voir ?
Alors, le goût d'entreprendre, je ne sais pas si je leur donne le goût d'entreprendre. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on incube à aujourd'hui un Repair Café qui va se créer à Tournefeuille, où Viviane, qui est du coup la future présidente de ce Repair Café-là, est venue nous voir en nous disant « j'aimerais bien faire comme vous faites ». Et je lui dis « c'est... tout à fait possible. Nous, on s'est lancé sans accompagnement particulier, mais si tu veux passer du temps avec nous, voir comment ça se passe.
Très bien.
Elle a passé un an. Elle est arrivée l'année dernière, au début décembre. Et là, elle passe son projet à la criée de Tournefeuille bientôt. Là.
Ouais,
enfin, il est passé déjà à la criée. Il a été passé en première partie. Il doit maintenant être poursuivi. Donc, on l'accompagne, en fait, sans avoir défini une structure ou quoi que ce soit. Elle est bénévole chez nous. elle fonctionne et elle va répliquer les fonctionnements qui lui plaisent et y mettre sa touche personnelle. Et après, par téléphone, je suis en contact avec une personne qui veut créer un Reaper Café à Fronton, un Reaper Café à Blagnac. Ouais. Donc en fait, on essaime, on est vraiment sur un principe d'essaimage. Dans la discussion avec les autres bénévoles, pour eux, à aujourd'hui... créer une association, se lancer, faire ce qu'on a fait, on est quand même un peu des extraterrestres.
Jean-Marc, une autre question.
Voilà 18 mois à peu près que le Reaper Café existe.
C'est ça,
à peu près.
Un peu plus loin.
Qu'est-ce qui a changé dans le quartier, chez les habitants que vous côtoyez ?
Chez les habitants que je côtoie, pour moi, personnellement, c'est le fait de savoir que ça existe. C'est-à-dire que je viendrai, on croise quelqu'un au marché, et c'est une personne du Reaper Café, qui est venue au Reaper Café, Gilbert, là, on s'est vu, et je lui dis « Ah, mais vous avez commandé votre pièce, votre truc, parce qu'on se voit la prochaine date. » Ils ont en tête le calendrier, mieux que certains de nos bénévoles, quand est-ce que c'est ? Ils ont bien tout dans leur agenda. Et la personne avait sur elle le bon avec la référence de la pièce. Du coup, je l'ai aidé à rechercher parce qu'il avait du mal à la trouver. Donc, le fait qu'on se soit croisés, ça crée un lien supplémentaire. En fait, ça crée un peu comme si on avait des amis en plus. Toutes les personnes qui viennent au Reaper Café avec qui on a passé du temps, on a discuté. Cette personne, elle est venue 3, 4 ou 5 fois. Maintenant, elle fait partie des connaissances. On se reconnaît facilement. Et donc, moi, je pense que ça crée du lien, en fait. Ce que ça a changé pour moi, c'est... ça crée beaucoup de liens.
Qu'est-ce que vous dites, que vous disent les personnes, finalement ?
Les personnes qui nous disent, c'est assez généralement merci. Et donc, c'est hyper important de recevoir ça et de savoir le recevoir. Alors, j'ai un ami assez proche qui est prêtre, Philippe Guittard, qui nous dit quand on vous dit merci, il ne faut pas dire de rien, il faut dire avec plaisir. Donc, on leur répond avec plaisir. Ça, c'est hyper important. Ils nous disent beaucoup merci. Et surtout, j'ai le cas d'une dame qui... il y avait eu un article de journal, La Dépêche était passée... elle avait fait un article sur un des Reaper Cafés et l'avait pris elle un peu en exemple, en photo, parler un peu de son expérience. Et elle était devenue une sorte de référente Reaper Café dans son quartier, dans sa rue, où les gens venaient la voir en disant « tu penses que je peux réparer ça ?» etc. Donc ça, c'est assez marrant. Donc il y a des gens qui sont vraiment, ils passent un bon moment. Et ce que j'aime entendre, c'est les gens qui nous disent « ah, j'ai passé une bonne après-midi » parce qu'en fait, ils viennent pour réparer quelque chose, puis ils ont fini, puis ils s'en vont pas forcément. Ils restent là, on boit un coup, on discute,
on peut boire le café quand même.
Exactement. Ah, voilà. Alors, c'est un peu l'idée, c'est d'offrir quelque chose qui permette de patienter aussi, puisqu'on essaye de prendre le temps. C'est-à-dire que ce qu'on dit à nos bénévoles, lorsque vous êtes avec quelqu'un, même s'il y a 3-4 personnes qui attendent, on ne se met pas la pression, on va bien au bout de l'accompagnement de la personne avec qui on est. Même si la personne la plus compétente pour faire ce qu'attend une personne... elle est déjà occupée, on va attendre qu'elle ait terminé et on va pas lui mettre la pression. Et si elle a envie de faire une petite pause après, elle fera une petite pause après. Enfin, on apprend à prendre le temps.
Benjamin, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Je suis persuadée, Jean-Marc aussi certainement, que vous avez donné envie à d'autres personnes d'ouvrir des Reaper Café en Occitanie. Oui. On peut vous trouver facilement ? Vous avez une adresse internet ?
Oui, alors on a un site internet, vous tapez sur les moteurs de recherche. Alors vous avez par exemple Lilo ou Ecosia, qui sont des moteurs de recherche responsables.
Voilà.
Vous pouvez taper Reaper Café Colomiers. Et puis, si vous n'êtes pas encore sur ces moteurs de recherche-là, vous pouvez les télécharger.
Ou sur la page Facebook aussi. Vous avez
une page Facebook. Nous avons une page Facebook, Reaper Café Colomiers. C'est assez simple. Ou sur le site du Reaper Café, donc reapercafé.org. Vous avez la liste de tous les Reaper Cafés. Voir s'il y en a un près de chez vous. Sur une grande carte.
Je crois que simple. Google va couper, là, c'est plus possible. Là.
Non, il coupe pas.
Merci à vous, merci beaucoup. Merci vous beaucoup. Souhaitez nous joindre, c'est facile, entreprendre @radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.